Bien, il est 14h30, donc on va commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous lis un texte que j'ai trouvé, je ne sais plus où, dont je ne connais pas l'auteur, mais qui m'a plu. Dieu n'est pas juste. Il fait briller son soleil sur les incroyants comme sur les croyants. Dieu n'est pas juste. Il donne un festin au fils prodigue et ne fait rien de plus pour le fidèle. Dieu n'est pas juste. L'ouvrier de la 11e heure reçoit le même salaire que celui qui embauche à 9h. Dieu n'est pas juste. Il réprouve celui qui, sans le faire fructifier, remet le talent qu'il avait reçu. Dieu n'est pas juste. Il délaisse 99 fidèles pour courir après un seul égaré. Dieu n'est pas juste. Il ouvre son ciel aux prostituées, il fait entrer le voleur le premier. Dieu n'est pas juste. Il se détourne d'un pratiquant de la loi pour accueillir un non-pratiquant. Dieu n'est pas juste à mon égard. Il oublie mes infidélités et ne se souvient que de mon amour. Dieu n'est pas juste à notre façon. Heureusement. Alors, s'il y a un peu d'humour, ça ne gâtera pas les affaires. Mais je l'ai choisi parce que ça montre bien que la justice de Dieu et la nôtre n'est pas la même et qu'il faut nous réjouir d'apprendre à connaître la justice de Dieu. Et c'est ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui puisque nous avons sauté, ou j'ai sauté, la troisième béatitude qui est heureux les affligés, je crois. Non, aujourd'hui, on va parler des affamés. Mais j'ai sauté la troisième qui est heureux les affligés parce que j'en parlerai en l'associant avec heureux les cœurs purs. Voilà. Donc aujourd'hui, on passe à la quatrième béatitude chez saint Matthieu. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Je précise que cette béatitude existe aussi chez saint Luc, présentée d'une manière un peu différente. Saint Luc dit « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé de « Heureux les pauvres », on peut faire la même remarque sur cette béatitude. Saint Luc mettait « Heureux les pauvres » tout court, et saint Matthieu « Heureux les pauvres en esprit ou les pauvres de cœur ». Et aujourd'hui, saint Luc dit « Heureux vous qui avez faim maintenant, tout court », alors que saint Matthieu précise « Heureux les affamés de justice ». C'est-à-dire que Luc donne une portée qu'on pourrait limiter à une portée matérielle, et qu'en donnant la précision « assoiffé de justice », Matthieu oriente vers un sens plus spirituel. Le père Carré explique ainsi cette différence. Dès le début de l'Église, la version de saint Matthieu fut la plus communément répandue et commentée. Sans doute voulait-on mettre en garde les chrétiens contre une interprétation trop littérale qui amenait certaines sectes à oublier le contexte du serment sur la montagne pour voir dans chacune des situations matérielles exaltées par le Christ une valeur en soi, indépendante des dispositions morales de l'individu. Il reste que la vérité évangélique nous est proposée sous deux expressions. N'en récusant aucune, elles se complètent, s'enrichissent mutuellement. Le Seigneur s'adresse à des êtres physiquement affamés et assoiffés, mais cette faim et cette soif sont les signes d'une autre avidité, celle de la justice au sens biblique du terme, c'est-à-dire de la sainteté. Et voilà. Dans cette dernière phrase, un peu posé le canevas de cet entretien d'aujourd'hui, il y a une faim et une soif matérielle, et une faim et une soif d'une justice au sens biblique, et nous allons passer un grand moment à déterminer le sens biblique de cette justice, qu'on peut assimiler à la sainteté. On en reparlera un peu plus tard. Il n'y a pas grande différence de traduction entre la Bible de Jérusalem, dont je vous ai donné le texte, et puis la Tobe, traduction œcuménique de la Bible, ou la botte, la Bible ostitrinquée. La seule différence simple notable, une fois de plus, c'est la traduction de Chouraki. En marche les affamés et les assoiffés de justice, oui, ils seront rassasiés. Mais en fait, la différence porte sur en marche au lieu de bienheureux. J'ai relu quand même, je vous avais dit la dernière fois que je n'étais pas satisfait de la traduction de Chouraki, que je ne comprenais pas du tout. J'ai été revoir avec quelqu'un, et l'explication qu'on pourrait trouver, c'est qu'il y ait, de façon inexplicable, une inversion de, enfin, un changement entre deux versets. Voilà, c'était un peu compliqué. Le plan que je vous propose pour aujourd'hui, c'est dans une première partie, que signifie avoir faim et avoir soif ? Première grande partie. Deuxième grande partie, une réflexion sur le sens du mot justice. Que signifie avoir, être affamé de justice ? Une troisième grande partie, en quoi cette justice est-elle liée à la personne du Christ ? Et dans un quatrième temps, prendre la dernière partie de la béatitude, de quel rassasiement s'agit-il ? Donc, grand 1, que signifie avoir faim et avoir soif ? Le Père Carré l'a souligné, il faut prendre les deux béatitudes, celle de Saint Matthieu et Saint Luc. Saint Luc donne un sens plus matériel et Saint Matthieu un sens plus spirituel. Dans les deux sens, dans les deux cas, le sens d'être affamé, c'est quand même souligner un manque. La faim creuse un espace qui reste vide, un désir qui reste inassouvi. Et donc la béatitude revient à poser la question de savoir en quoi cet espace laissé vide par la faim ou ce désir inassouvi peuvent-ils provoquer le bonheur ? Premièrement, la faim peut-elle nous séparer de l'amour du Christ ? Vous avez reconnu une phrase de saint Paul. En quoi une personne affamée pourrait-elle être heureuse ? Et je me suis posé des questions en fait que je ne m'étais jamais posées. Et je me suis dit qu'être affamé, c'est beaucoup plus fort qu'avoir faim. J'ai faim parce qu'il y a quelques heures que je n'ai pas mangé. Mais je suis affamé parce qu'il y a plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Être faim est plus facilement remédiable parce que je n'ai qu'à aller déjeuner maintenant. Tandis que si je suis affamé depuis plusieurs jours, si la solution pour moi avait été si facile, sans doute j'y aurais remédié sans attendre d'avoir faim depuis plusieurs jours. Donc il me semble qu'être affamé est plus profond que simplement avoir faim. Et la béatitude, c'est, chez saint Matthieu, être affamé. Donc au sens très profond. Précisons aussi que ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'un état librement choisi. Et non pas un fait subi. Ce qui est intéressant, c'est si je fais volontairement le choix d'avoir faim. Pas si j'ai faim parce que je n'arrive pas à manger. Le Père Carré fait cette remarque. En effet, si j'ai faim, c'est une question matérielle, mais si un autre a faim, cela devient pour moi une question spirituelle. Et donc, Jésus s'adresse à des gens, enfin, il s'adresse aux deux cas de figure. Pour nous, être bienheureux de faire un choix volontaire de faire l'expérience de la faim et de faire attention à ceux qui ont faim. Jésus, qui s'adresse évidemment à ceux qui ont faim matériellement et ont faim spirituellement, a conscience aussi qu'il faut nourrir ceux qui ont faim dans leur corps. C'est l'évangile qu'on avait hier. Ou par deux fois dans l'évangile, Jésus se préoccupe quand même de ceux qui ont faim, que les apôtres proposent de renvoyer, et Jésus dit, c'était pas dans l'évangile d'hier, mais c'est dans un autre évangile, ne les renvoyez pas parce qu'ils risqueraient de défaillir en route. Donc Jésus est quand même très sensible à cette dimension que les autres peuvent connaître de la faim avec cet affaiblissement physique que cela entraîne. en soi la fin, je vous redis maintenant ce que j'avais dit pour la pauvreté, en soi la fin n'est pas une expérience heureuse. Faire l'expérience de la fin en soi n'est pas une expérience heureuse. Elle ne devient heureuse que si cette fin est comblée par un bien plus grand que celui dont je suis privé. Dans ce premièrement petit A, je vais donc vous parler du jeûne, en considérant que Jésus nous invite à faire cette expérience de la faim et que si je choisis moi de la faire, ça veut dire que j'accepte d'intégrer dans ma vie la dimension du jeûne. Donc le jeûne comme arme spirituelle. D'abord parce que celui qui décide de jeûner se trouve d'une façon particulière être en communion avec le Christ. Lui le premier a jeûné au désert. Et ayant jeûné pendant 40 jours, l'évangile précise, il eut faim. Et ce jeûne de 40 jours a affaibli le Christ. Et l'évangile précise qu'à la fin de ces 40 jours, Satan vient à ce moment-là, quand le Christ est affaibli, pour essayer de l'attaquer dans cet instant où il est plus faible. Et on constate que, en fait, ce jeûne consenti par le Christ, il l'a fait pousser par l'Esprit qui l'a conduit au désert, donc en lien avec l'Esprit, et il le fait pour passer 40 jours à prier son Père. Donc ça n'est pas simplement un jeûne physique, c'est une plus grande intimité spirituelle avec son Père et avec l'Esprit. Les forces physiques diminuent pour que les forces spirituelles augmentent. Et donc c'est une arme dans ce combat, parce qu'on comprend que Jésus qui est poussé au désert, il commence le combat qu'il va mener pour nous, pour que sa victoire sur la tentation puisse devenir notre victoire sur la tentation. Et si à un moment mes forces physiques diminuent, c'est vrai par exemple quand je suis malade, c'est vrai quand je prends de l'âge et que je sens mes forces physiques diminuer, ça devrait être au profit d'un accroissement des forces spirituelles pour que je sois plus fort encore dans ma j'allais dire, déchéance physique par une compensation des forces spirituelles. De même, si Jésus a été poussé au désert, il le fait aussi par amour pour nous. C'est pour nous qu'il mène ce combat, parce que lui n'a rien à prouver. Il veut que spirituellement, cette victoire qu'il remporte puisse devenir aussi pour nous un stimulant dans notre combat contre les tentations. Ce qui permettra à Jésus de dire dans l'évangile, alors c'est un peu délicat parce que ce verset que je vais vous dire n'est pas dans toutes les versions, mais en Matthieu 17, 21, qui est lui-même une reprise de Marc 9, 29, il y a cette phrase, « Quant à cette espèce de démon, on ne la fait sortir que par la prière et par le jeûne. » Voilà, le jeûne comme arme spirituelle contre les forces mauvaises. Et le Christ nous montre qu'il faut pratiquer en même temps le jeûne, la prière et l'aumône. C'est ce que nous rappelle l'Église le mercredi des cendres dans son évangile pour commencer ce combat du carême. Saint Augustin a cette jolie phrase, « La prière et l'amour du prochain sont les deux ailes du jeûne sans lesquelles il ne peut décoller. » Par ailleurs, on peut accepter de jeûner par solidarité avec ceux qui souffrent de la faim. Partage ton pain avec l'affamé, dit le prophète Isaïe. Et souvent, on se demande en quoi le fait de que moi je me prive ici en France va aider quelqu'un qui meurt de faim autre part dans le monde. Alors, il faut bien comprendre que cette solidarité n'est pas immédiatement matérielle ou concrète, c'est une solidarité spirituelle. De même que dans l'Évangile, ce petit enfant qui apporte ses 5 pains et ses 2 poissons, c'est son goûter, c'est insignifiant pour nourrir cette foule. Les apôtres eux-mêmes se posent la question, qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Et de fait, l'enfant, lui seul avec ses 5 pains et ses 2 poissons, n'aurait rien pu faire. Sauf que ces 5 pains et ces 2 poissons, il ne les a pas remis aux apôtres, il les a remis à Jésus. Et que Jésus s'en est servi, lui, pour nourrir la foule. Il faut donc croire, poser cet acte de foi, que si moi je pose ici un acte de jeûne, cet acte de jeûne entraînera spirituellement une conversion de quelqu'un qui touchera un moins grand pot de vin, je ne sais pas quoi, mais qui aura une répercussion pour l'équilibre du monde. Et c'est souvent quand même que les papes nous invitent à pratiquer le jeûne comme arme spirituelle. C'est aussi en ce sens que saint Paul explique qu'au gré des circonstances, selon les événements, il a été initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Quand tout va bien, il rend grâce à Dieu. Quand il est en état de manque, il offre en sacrifice pour un but précis. C'est le bénéfice qui s'augmente à votre actif, explique-t-il aux Philippiens. Et enfin, ce jeûne est un jeûne matériel qui crée un espace pour un bien supérieur. Alors déjà, il y avait un bien supérieur à me sentir en communion avec le Christ aussi de cette façon-là. Mais c'est la réponse que le Christ fait au démon dans le désert. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc je n'oublie pas que j'ai un corps à nourrir, mais que j'ai une âme à nourrir, que mon âme est supérieure à mon corps, et que je dois quelquefois préférer le jeûne de mon corps pour satisfaire la nourriture de mon âme. Je pense que c'est un des sens que l'Église donne au jeûne eucharistique qu'elle nous invite à faire. Il y a des années, c'était à partir de minuit, on ne pouvait plus communier jusqu'à la communion, donc on allait à la première messe, on communiait à la première messe, puis on retournait prendre son petit déjeuner et ensuite on retournait à la grand-messe, mais on communiait à la première messe de 7h du matin. Et aujourd'hui, on nous demande une heure de jeûne pour que notre corps s'efface, pour que nous soyons attentifs et que notre âme se prépare à cette rencontre avec le Christ qui se donne à nous. Et puis, il y a un bien supérieur. En acceptant d'entrer librement et joyeusement dans ce jeûne, ça contribue à remporter la victoire sur mes passions. Saint Athanase remarque « On nous a donné le jeûne et la tempérance qui doivent procurer arrêt et calme aux passions de notre corps. » Et Saint Antonin, que je ne connais pas bien, pose la question « Quel est le don, quel est l'esprit contraire au don d'intelligence ?» Parmi les 7 dons de l'esprit, il y a le don d'intelligence. Quel est l'esprit contraire au don d'intelligence? Et il dit, c'est l'esprit de gourmandise. Déréglé à un titre quelconque, la manducation fait prédominer la vie des sens sur la vie de l'esprit, le corps sur l'âme. Plus on mange, moins on pense. Plus on mange délicatement, moins on pense sensément. Et les professeurs vont tous vous dire qu'ils préfèrent les heures du matin aux heures de l'après-midi. Que la pire, c'est 14h, parce que là, on sort de table et que, voilà, 14h30, c'est la pire. Toujours dans ce grand 1, deuxièmement, Dieu nous comble de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, 3. Et c'est là qu'il faut passer un peu de ce jeûne matériel à lui donner un sens spirituel, ou en tout cas l'élargir. Et je vais vous lire 2 textes, l'un ancien et l'autre contemporain. Le premier, le plus récent, est du pape Saint Jean-Paul II. À l'évidence, le jeûne pénitentiel est très différent des régimes alimentaires thérapeutiques. Mais à sa manière, on peut y voir comme une thérapie de l'âme. En effet, pratiqué en signe de conversion, il facilite l'effort intérieur pour se mettre à l'écoute de Dieu. Jeûner, c'est réaffirmer à soi-même ce que Jésus répliqua à Satan qui le tentait au terme des 40 jours de jeûne au désert. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, spécialement dans les sociétés de bien-être, on comprend difficilement le sens de cette parole évangélique. La société de consommation, au lieu d'apaiser nos besoins, en crée toujours de nouveaux, engendrant même un activisme démesuré. Entre autres significations, le jeûne pénitentiel a précisément pour but de nous aider à retrouver l'intériorité. L'effort de modération dans la nourriture s'étend aussi à d'autres choses qui ne sont pas nécessaires et apporte un grand soutien à la vie de l'esprit. Sobriété, recueillement et prière vont de pair. On peut faire une application opportune à ce principe en ce qui concerne l'usage des moyens de communication de masse. Ils ont une utilité indiscutable, mais ils ne doivent pas devenir les maîtres de notre vie. Dans combien de familles le téléviseur semble remplacer, plutôt que faciliter, le dialogue entre les personnes. Un certain jeûne dans ce domaine aussi peut être salutaire, soit pour consacrer davantage de temps à la réflexion et à la prière, soit pour cultiver les rapports humains. Je me souviens d'une petite blague des triplés. Un des enfants se promène avec sa mère et un caillou dans sa chaussure. Donc, maman, maman! Et sa mère, oui mon chéri, et le portable de la mère sonne, donc elle n'écoute pas. Mais le gamin a toujours ce caillou dans sa chaussure. Maman, maman, oui mon chéri, et puis le téléphone sonne, donc elle n'écoute pas. Et le gamin qui a quand même envie d'être écouté, rentre dans une cabine téléphonique, appelle sa mère, dit « Maman, j'ai un caillou dans ma chaussure ». Deuxième texte de Jean Cassien qui était moine au 4e, 5e siècle. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais l'idée de son texte, c'est que ça ne sert à rien de jeûner matériellement dans son corps si ça ne s'accompagne pas d'un désir réel de changer de vie. Donc il dit qu'il faut faire le jeûne matériel de la nourriture et il faut jeûner du désir de commettre des péchés, évidemment. Mais le désir de commettre des péchés, c'est aussi, comme disaient les anciennes formules quand on interrogeait pour le baptême, c'est non seulement fuir le péché, mais fuir les occasions du péché. Donc, la vertu de prudence s'exerce bien en amont de la tentation. Quand je suis en plein face à la tentation, ça risque d'être trop tard. Donc, ma lutte contre le péché, mon jeûne contre le péché, me pousse à fuir par prudence, très loin, toutes les occasions qui risqueraient de me mettre en face du péché. Et vous voyez, ce thème du rassasiement est d'une importance capitale, pas simplement parce que ça nous fait, ça ouvre à la nourriture de l'âme, mais parce que je pense que ça touche à l'attitude de vie, et que ça touche toute notre vie. Au sens où Jésus dit dans l'Évangile « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et ce n'est pas simplement faire la volonté de mon Père dans les grandes lignes, c'est faire la volonté de mon Père à chaque instant. Et donc, je jeûne physiquement pour une nourriture spirituelle. Ma nourriture spirituelle, c'est de vouloir faire la volonté de mon Père. Et ça, c'est sans répit. Alors, on comprend mieux que Jésus puisse faire de cette expérience du manque, de la faim, une béatitude, dans la mesure où ce manque, je le fais en vue d'un plus grand bien, qui est ultimement d'être uni à Dieu en voulant faire sa volonté à chaque instant. Et quand un peu plus tard dans l'Évangile, Jésus dira « Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent ce que vous entendez. » C'est en Matthieu 13, donc un peu plus loin que les béatitudes. Heureux sommes-nous d'avoir entendu ces exigences des béatitudes qui ne sont pas les textes, l'expression d'un masochisme, mais qui sont, quand on creuse, l'expression d'un plus grand bien qui nous est proposé dont le Seigneur veut nous faire prendre conscience en nous disant « Renoncez à l'inférieur pour avoir accès au supérieur. » Grand 2, être assoiffé de justice. Et donc là, on va basculer plus sur le commentaire de la béatitude selon saint Matthieu. Et ce mot est compliqué parce qu'il y a la justice à laquelle on pense spontanément, qui est vraie, et ce sens s'est enrichi dans la Bible jusqu'à l'arrivée du Christ qui va lui donner un sens qui peut à certains moments nous étonner. Premièrement, dans ce grand 2, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? C'est-à-dire qu'il y a des injustices et que je ne peux pas me taire face aux injustices. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas chargés d'annoncer l'avenir. C'est pas ça d'abord le rôle du prophète, mais de dénoncer les situations mauvaises et les situations injustes. Et les prophètes ont des paroles très fortes pour dénoncer le mal qui se fait. Et ils annoncent, si vous persistez dans ce mal, alors inévitablement les malheurs arriveront, parce que cette situation injuste provoquera des situations de malheur. Il s'agit pour le juge, et le prophète est là pour rappeler ses devoirs au juge, de justifier l'innocent ou de le rétablir dans ses droits. Malheur à ceux qui changent le droit en absinthe et jettent à terre la justice, qui haïssent le défenseur du droit, qui détestent celui qui parle avec intégrité. Eh bien, puisque vous écrasez le faible et que vous lui prenez un tribut sur son blé, ces maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n'y habiterez pas. Ces vignes de choix que vous avez plantées, vous n'en boirez pas le vin. Car je sais que nombreux sont vos crimes et vos péchés énormes, oppresseurs du juste, extorqueurs de rançon, vous qui repoussez le pauvre à la porte. Vous voyez, le pauvre à la porte, ça me fait penser à Lazare et le mauvais riche, et le pauvre qui est à la porte. Malheur à ceux qui, pour un pot de vin, acquittent le coupable, mais à l'homme droit retirent son droit. Et avec cette idée de la balance, qui est pour nous le symbole de la justice où les deux plateaux s'équilibrent, c'est-à-dire qu'un travail mérite un juste salaire pour équilibrer les plateaux, ou que si j'ai fait une faute, à une faute correspond une juste peine. Donc il y a le prophète Amos, à propos de cette balance, il critique ceux qui disent « Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le cycle, nous fausserons les balances pour tromper, nous achèterons le pauvre pour de l'argent et l'indigent pour une paire de sandales, nous vendrons jusqu'à la criblure du froment. » Les prophètes font prendre conscience de la dimension morale et religieuse de l'injustice. Ce qui était perçu comme simple violation de règles ou de coutumes devient outrage à la sainteté d'un Dieu personnel. C'est pourquoi les injustices entraînent bien plus que les sanctions habituelles un châtiment catastrophique préparé par Dieu. Voilà, je pourrais vous citer un psaume, psaume 81, versets 1 à 5. Je terminerai simplement cette partie en citant un proverbe, « Abomination pour Yahvé, la balance fausse, mais le poids juste lui plaît. » Voilà. Et dans notre vie, quand on s'examine, je pense qu'on peut trouver des tas de façons d'être injuste. Et il ne faut pas, on ne négocie pas avec le mal. Il ne faut pas se dire qu'il y a des injustices plus grandes que celle-ci. Ça, c'est pas très grave. Je pense qu'il faut s'examiner pour souhaiter qu'il n'y ait ne jamais commettre d'injustice. Deuxièmement, dans ce grand 2, que signifie être assoiffé et affamé de justice? Je ne peux pas vous le définir en une phrase, alors je vais vous en donner quelques-unes dont le contenu mis tout ensemble. Préférer les autres à soi-même. Voilà, être affamé et assoiffé de justice. Être capable de sacrifices pour améliorer le sort des autres. Consentir à avoir un peu moins pour que les autres puissent avoir le nécessaire. Mais les béatitudes ne demandent pas qu'on donne de son superflu. Parce que si je donne de mon superflu, je ne suis toujours pas affamé. La béatitude me demande, au nom de la justice, que je donne de mon nécessaire, pour moi manquer un peu, pour que d'autres qui manquent davantage manquent un peu moins. C'est seulement à ce moment-là que je suis préoccupé, que je suis affamé et assoiffé de justice. Nous sommes habités par ce désir. Et ce désir, J'allais dire, on ne devrait plus dormir, ça devrait nous tenailler. Et j'allais dire, malheureusement ou heureusement, on dort quand même. Mais demandons la grâce de ne pas nous habituer, demandons la grâce du discernement des situations. Je suis, enfin, vous sans doute comme moi, on est dans certains nombres de cas, on ne sait pas quoi faire. Et pas forcément parce qu'on n'est pas généreux. Peut-être en certains cas parce qu'on n'est pas généreux, aussi en certains cas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et sans en avoir conscience, celui qui est ainsi affamé et assoiffé de justice aspire à beaucoup plus que simplement la réalisation d'une justice humaine. Celui qui agit comme ça ne se rend pas compte qu'en étant affamé et assoiffé de justice pour les autres, il est en train de remplir sa vocation à la sainteté. Monseigneur Lustiger, dont, que je vous citerai plusieurs fois dans son petit livre « Soyez heureux », il écrit « Il n'en reste pas moins que l'attrait du bien et le désir de justice dévoilent en l'homme la marque de son origine divine. » Voilà, je suis affamé et assoiffé, même si je ne le sais pas, parce qu'au fond de moi-même, je suis créé à l'image et à la ressemblance d'un Dieu juste et bon. Et donc, dans la Bible, il y a un certain nombre d'équivalences où on peut mettre un signe égal entre le mot justice et le mot sainteté. Et je ne vous ai pas encore parlé de cet écrivain dont je vous ai parlé les fois précédentes, Gilbert Cesbron. Et lui cite, enfin, traduit la béatitude dont on parle aujourd'hui de cette façon-là. « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la sainteté, ils seront rassasiés. » Et il imagine dans son livre ce petit dialogue que je vous lis. « Bienheureux ceux qui ont faim et soif d'être eux-mêmes des saints. » C'est-à-dire de ressembler à Dieu. Je ne connais pas d'autre définition de la sainteté. Ressembler à Dieu, vous avez la folie des grandeurs. Non, celle des tout-petits au contraire. Avant qu'ils ne perdent leur grâce et ne découvrent l'ingratitude, avant qu'ils ne soient entrés dans l'âge ingrat, ils ne rêvent que de ressembler trait pour trait à leur père ou à leur mère. Ça m'enchante. Voilà. Et on veut ressembler à notre père qui, lui, est juste et bon. Mais la sainteté n'est pas l'œuvre de l'homme. L'homme ne peut pas se donner à lui-même ce qu'il n'a pas. La sainteté, c'est l'œuvre du Dieu trois fois saint en nous. Je vous cite saint Augustin. La justice, ou donc la sainteté, ne vient pas de nous-mêmes, mais nous a été donnée depuis les cieux. Aussi que celui qui se glorifie ne se glorifie pas en lui-même, mais dans le Seigneur. Dieu nous a envoyé son Fils unique, il l'a fait devenir Fils de l'homme, afin que le Fils de l'homme puisse devenir Fils de Dieu. Quel don plus grand Dieu a-t-il pu faire resplendir à nos yeux? À qui il mérite? Pour quelle raison? D'où vient la justice? Réfléchis, examine, et vois si tu trouves en tout cela autre chose que la grâce. D'où l'homme peut-il tirer sa justice? De lui-même? Mais quel est le pauvre qui peut se rassasier lui-même? Quel homme nu peut se couvrir si ce n'est un autre qui lui offre une veste? Nous n'avons pas de justice, nous n'avons que nos péchés ici sur la terre. Quelle justice pourrait exister sans la foi? Le juste, en fait, vit par la foi. La justice a été donnée par le ciel pour que les hommes devinssent justes, mais de la justice de Dieu, pas de la leur propre. Et donc, cette béatitude dont nous parlons, le sens que nous approfondissons peut devenir « Bienheureux ceux qui seront affamés et assoiffés de l'action de Dieu dans le monde et de l'action de Dieu en eux, pour qu'ils soient justifiés, pour qu'ils soient sanctifiés. » Être juste, c'est être fidèle à l'alliance avec Dieu. Et quand l'évangile que nous avons entendu ces derniers jours dit de saint Joseph qu'il était un homme juste, c'est-à-dire un homme saint, certainement, c'est-à-dire un homme fidèle à l'alliance avec Dieu. Monseigneur Lustiger, avoir faim et soif de cette justice, ce n'est pas simplement souffrir des iniquités et des inégalités, ce n'est pas davantage en éliminant tout motif de plainte qu'on est rassasié, Il ne s'agit pas ici d'avoir et de faire la justice dont on peut rêver, mais d'être juste. Et l'être, ça ne dépend pas de nous. Il dépend de nous que nous nous prêtions docilement à l'action de la grâce de Dieu en nous. Grand 3. Jésus, justice de Dieu. Premièrement, Jésus ne se désintéresse pas de la justice humaine. Et quand on l'accompagne dans l'Évangile, on se rend compte à chaque page que Jésus a un comportement juste envers chacun. Les pharisiens et les scribes qui veulent voir Jésus un jour pour le coincer commencent par lui faire des tas de compliments. « Toi qui es juste, toi qui ne tiens pas compte des différences entre les hommes. » Voilà. C'est profondément juste, puisque notre nature humaine est la même pour tout le monde. Après, le reste n'est qu'une différence culturelle, physique, tout ce que vous voulez, mais c'est l'apparence. Jésus traite tout le monde de la même façon. Tout le monde parce que homme créé à l'image de Dieu. Jésus, par exemple, souhaite que ceux qui doivent payer l'impôt payent l'impôt à César, parce que c'est juste. Il va même au-delà de la justice, puisqu'un jour on lui a réclamé des pièces qu'il n'avait pas sur lui, donc il a demandé à Pierre de pêcher un poisson. Va pêcher un poisson, ouvre-lui la gueule, prends les pièces qu'il y a dedans et donne-les pour toi qui dois payer l'impôt et pour moi qui n'ai pas besoin de le payer. Par exemple, il rend justice publiquement à Marie de Béthanie, à qui Judas reproche de ne pas avoir vendu son parfum pour en avoir de l'argent et le donner aux pauvres. Et Jésus dit publiquement, « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on redira aussi à sa manière, à sa mémoire, ce qu'elle vient de faire. » Elle prend la défense de cette autre femme, alors c'est peut-être la même qui a versé du parfum sur ses pieds et dont le public, le pharisien qui l'a invité, se dit intérieurement, « Mais s'il savait qui est cette femme ?» Et publiquement, il va dire, « Simon, je sais parfaitement qui est cette femme, elle a fait ce que toi, tu n'as pas fait. » Jésus prend la défense de ses parents qui viennent le voir avec leurs enfants pour lui demander de les bénir, et les apôtres les écartent. Et Jésus prend publiquement fait et cause pour les parents et pour les enfants. Et on pourrait multiplier tous ces exemples où on voit qu'il est quand même... Ce qu'il vient de donner en plus s'appuie quand même sur la justice fondamentale des rapports entre les hommes. Mais il ne vient pas d'abord pour être juge et établir la justice dans les affaires des hommes. Madeleine Delbrel dit « L'évangile est l'annonce faite aux hommes de la possibilité d'être dans le Christ rendu juste. Il n'est pas l'annonce de l'établissement d'une justice humaine. » Le Christ est venu rendre juste, il n'est pas venu rendre justice. Et ça fait penser à cette personne qui, dans la foule, lui demande « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répond « Qui m'a établi juge entre eux, juge de vos affaires ?» Donc, moi je ne viens pas pour ça, mais il en profite quand même pour donner ce conseil. « Attention, gardez-vous de toute cupidité. » Car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Et pourtant, s'il y en a un qui pourrait rendre cette justice de façon parfaitement juste et impartiale, c'est bien lui, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes, et lui seul, puisque lui voit le fond des cœurs et que nous ne voyons que l'apparence. Et dans son parcours à travers la Palestine, et c'est tout le développement que nous avons après les Béatitudes, donc le discours sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7 de saint Matthieu, Jésus attend de ses disciples qu'ils aient dans leur comportement une justice supérieure à ceux des autres. Si vous faites ainsi, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Dit, donc si on fait la même chose que les païens, on ne peut pas prétendre être disciple du Christ. Le curé d'Ars disait « On reconnaît le disciple du Christ à ce qu'il fait, ce qu'il n'est pas obligé de faire. » Et donc, avant même de parler du niveau ultime de la justice, Jésus attend de ses disciples une certaine attitude qui peut nous paraître à nous quelquefois étonnante, qui est de l'ordre de la gratuité, mais une gratuité qui reste mesurable parce qu'elle reste à la mesure humaine. Quand un enquiquineur vous demande de faire 1000 pas avec lui, faites-en 2000. Quand le juge vous demande votre manteau, donnez aussi votre tunique. Donc c'est dépasser ce qui est requis, mais qui reste à mesure humaine. Jésus va plus loin dans son désir de justice qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, et de façon qui peut nous paraître quelquefois étonnante, ou choquer notre sens de la justice, quand on te frappe la joue droite, tends aussi la joue gauche. J'ai rien fait, je prends une baffe, il faut que j'en demande une deuxième. Ou bien, il pousse la justice plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Quand un homme regarde une femme et l'a déjà désirée dans son cœur, il a commis avec elle l'adultère. Mais alors, si on se met à ce niveau-là, on a envie de dire, qui peut être juste? Voilà. Il ne faut jamais oublier que quand Jésus pose des exigences, il donne toujours la grâce qui permet de les vivre. La grâce n'est pas quelque chose de magique. Je fais ça, je vais à la messe, je communie, je me confesse une fois et je peux tout faire. Ça reste un combat. Mais les moyens me sont en permanence donnés pour que ce combat de cette justice supérieure, je puisse le mener. Autre chose qui nous paraît insurmontable, pardonne à tes ennemis. On est passé, dans l'Ancien Testament, c'était la loi du talion qui était déjà un progrès, et maintenant pardonne. Ou bien, si un organe te mène au péché, coupe-le. Il y a une espèce de radicalisme de cette justice dans notre comportement. Et Jésus va amener une justice encore plus grande, non plus une justice à dimension humaine, mais celle qui vient de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il faut donc maintenant qu'on s'interroge sur ce surcroît de justice, celle qui est liée au royaume de Dieu, et que Dieu nous demande, que Jésus nous demande de chercher d'abord, sans tenir compte du reste. Donc deuxièmement, dans ce grand 3, Jésus accomplit la justice divine. Et on va prendre quelques paraboles dont les leçons qu'en tire Jésus peuvent nous choquer. Et on peut quelquefois, en écoutant Jésus, avoir l'impression que ce qu'il nous présente comme étant juste nous apparaît à nous comme assez injuste. Et donc il faut que nous prenions conscience que Jésus n'est pas contre notre sens de la justice, que la justice divine n'est pas une justice parallèle à la justice humaine qui donc par définition ne se rencontre jamais, que ce qui nous paraît à nous à certains moments quand on écoute Jésus qui nous paraît être une injustice, il faut que nous convertissions notre pensée pour comprendre en quoi ce qui nous paraît injuste est finalement la plus grande justice puisque Jésus nous la propose. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Par exemple, il nous paraît injuste de confier la gestion d'une 11e ville à celui qui vient déjà d'en avoir 10, alors que celui d'à côté en a que 5, et qu'on a enlevé au 3e la gestion d'une ville parce qu'il n'avait rien fait. Pourquoi la confier à celui qui en a déjà 10? Injustice qui nous paraît encore plus grande, pourquoi donner le même salaire à celui qui a travaillé une heure autant que ceux qui ont travaillé depuis le matin et qui portent, dit l'Évangile, le poids du jour et de la chaleur? Parce que nous avons un sens de la justice qui est, j'allais dire, proportionné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. A-t-il travail, mérite, correspond-il salaire? Et que Jésus nous donne cette parabole pour nous faire comprendre que ce qui est juste, c'est pas de donner à chacun en fonction de ce qu'il mérite, mais en fonction de ce dont il a besoin. Et si on a donné une pièce d'argent au début de la journée, parce qu'on s'est mis d'accord, vous qui êtes venus la première heure, on s'est mis d'accord pour le salaire d'une journée d'une pièce d'argent. Pourquoi ? Parce que c'est juste. C'est ça dont vous avez besoin pour vivre. Mais celui qui arrive en dernière heure de la journée, qui arrive parce qu'on ne l'a pas prévenu, dit l'Évangile, il n'était pas au courant, lui aussi a besoin d'une pièce pour vivre. Et donc le maître qui est juste, non pas en fonction des heures de travail, mais en fonction des besoins, donne à chacun ce dont il a besoin. Il y a une radicale nouveauté qui est signifiée, par exemple, dans cette parabole du fils prodigue, dont je vais parler maintenant et sur laquelle je reviendrai encore un peu plus tard. Le fils prodigue est donc parti, il rentre en lui-même et il se dit « Je vais rentrer chez mon père et je vais lui dire « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je reconnais que je suis pécheur. » Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, je reconnais que mon péché m'a enlevé ma dignité d'enfant. Si tu es bon, acceptes-tu au moins de me recevoir à la maison comme un serviteur? Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le fils prodigue arrive, le père se jette dans ses bras et le père le laisse parler. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, c'est vrai, tu es pécheur. Père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Oui, c'est vrai, ton péché est grave. Et le père l'arrête. Il ne lui laisse pas dire « traite-moi comme un serviteur » parce que ça, c'est la justice humaine. Mes fautes méritent tel châtiment. J'ai perdu ma dignité de fils. Et le père l'interrompt en lui disant « moi, j'ai perdu un fils. J'ai pas perdu un serviteur. Des serviteurs, j'en ai plein la cuisine. Si je récupère un serviteur de plus, mais pas un fils, le perdant, c'est moi. » Et donc, c'est le père qui veut traiter selon sa justice à lui. Et la justice à moi, c'est que je te fasse miséricorde et que je récupère le fils que j'ai perdu. Et effectivement, il peut être réintégré dans la maison pour avoir part au banquet des noces. La justice divine ne consiste pas à donner à ce fils selon ce qu'il mérite, mais selon ce qu'a mérité le Fils unique de Dieu, qui a offert lui sa vie pour nous. Et on peut dire en vérité que ce fils cadet qui revient est un fils retrouvé, ressuscité, comme dit l'Écriture, qu'il rentre à la maison où la joie de le recevoir est encore plus grande que celle qui était vécue à la maison avant son départ. Je passe à une autre parabole, celle du débiteur impitoyable, Matthieu 18, 23, 35. Vous savez, c'est ce premier serviteur qui doit 10 000 talents. Je vous fais grâce du calcul, c'est 60 millions de pièces d'argent. Autrement dit, une somme irremboursable par qui que ce soit. Personne ne peut rembourser 60 millions de pièces d'argent. Puisque tu ne peux pas rembourser, très bien, je te fais mettre en prison, toi, ta femme, tes enfants, tout est bien jusqu'à ce que tu aies remboursé. Autrement dit, cet homme n'existe plus. « S'il te plaît, fais-moi grâce, je te rembourserai. » Le maître n'est pas dupe. Il sait très bien qu'on ne peut pas rembourser. Mais il le réintègre en lui disant « Je te remets ta dette. » Bien. Et ensuite, il y a celui qui donne une toute petite dette et à qui est jeté en prison. Vu de notre point de vue à nous, que nous ayons 100 pièces ou que nous ayons 1000 pièces, nous paraît une différence importante. Celui qui en a 1000 est plus riche, plus puissant que celui qui n'en a que 100. Mais si on se place aux yeux de Dieu, à qui on doit 60 millions de pièces, Vous imaginez bien qu'en avoir 100 ou en avoir 1000 ne fait aucune différence. De toute façon, nous sommes insolvables. Nous ne pouvons pas payer. Et donc, c'est lui qui fait le chemin inverse, et c'est pour lui la même chose de faire le chemin jusqu'à 1000 pièces ou jusqu'à 100 pièces. La justice divine, c'est de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et à proprement parler, je pense qu'il n'est pas tout à fait juste de dire que le Seigneur nous remet la dette, que nous ne pouvons pas payer. Il ne remet pas la dette parce que ça, il demeurerait une situation d'injustice. Il me semble plus juste de dire que la dette a été payée par un autre que nous. Et cet autre, c'est évidemment le Christ, lui l'innocent, qui ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu, qui s'incarne, et c'est ce que nous venons de célébrer, et en entrant dans le monde, j'ai dit au Seigneur, tu ne voulais plus ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps, et j'ai dit, voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et la volonté du Père, qui est la nourriture du Fils, c'est que cette vie soit offerte en sacrifice, pour que cet amour de Dieu manifesté couvre la multitude des péchés. Mais la dette, elle a bien été payée, pas par nous, par le Fils unique, l'innocent. Troisièmement, troisièmement du grand 3, je vois qu'il y en a qui suivent. Le Christ est le seul juste. Comment est-il possible que la justice de Dieu, qui est de faire miséricorde, puisse ainsi rétablir cette justice? Le prophète Jérémie annonçait « Le Seigneur est notre justice ». Et saint Jean affirme « Dieu est juste ». En envoyant son Fils vivre parmi les hommes, le Père a envoyé le juste vivre parmi les hommes. Et saint Jacques écrira « Vous avez tué le juste ». L'homme était donc incapable d'être juste par lui-même. Et le drame des pharisiens, c'est de croire que précisément parce qu'ils sont obéissants à la loi, qu'ils font le bien, ils sont justes. Et ce qui est dramatique dans la situation des pharisiens, c'est que, pensant qu'ils sont justes par leur propre attitude, ils n'ont plus besoin que le Christ offre sa vie pour eux, puisqu'ils sont déjà justes. Donc, si d'une façon ou d'une autre, j'ouvre une parenthèse qui n'était pas prévue, mais c'est pour moi l'une des choses les plus dramatiques de notre société aujourd'hui, c'est que d'une façon ou d'une autre, on se justifie soi-même. En disant, ben moi je fais le bien, sans doute j'ai des petits péchés, mais comme je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne veux pas avouer le problème. Ça c'est, j'allais dire, un peu neutre, mais c'est réel. Autre façon de se justifier, c'est nier la gravité de ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas grave. Et pourquoi l'Église peut-elle dire, mais il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui ne sont pas graves, il y a des péchés qui sont mortels, c'est dit dans la parabole du fils prodigue, ton frère était mort et il est revenu à la vie, et il y a des péchés qui sont moins graves, pas parce que l'Église a envie d'enfoncer les gens, mais précisément parce que l'Église sait qu'elle peut mettre à leur disposition le pardon, la miséricorde de Dieu, qui couvre même les péchés les plus graves. Et vous avez une troisième façon de se justifier, c'est de changer les règles. Notre société a décrété, mais c'est sa morale bourgeoise judéo-chrétienne, que ça c'était bien et que ça c'était pas bien, que le mariage c'était entre un homme et une femme, mais nous on décrète, et maintenant on a la majorité des députés pour être de notre avis, que le mariage c'est ce qu'on veut, un homme, une femme, ou deux hommes, ou deux femmes, donc on change les règles. Et donc on se trouve dans des situations qui sont légales de par notre justice ou nos lois humaines, et si ce que je fais n'est plus mal, je n'ai plus besoin d'être sauvé d'un mal que je n'ai pas fait. Et c'est plus grave encore que les situations objectivement mauvaises de péché. Pour moi, ce qui est plus dramatique, c'est que je n'ai plus besoin de sauveur. Notre monde n'a plus besoin d'être sauvé puisqu'il ne fait plus le mal. Je reviens, je ferme la parenthèse. Je voudrais vous faire suivre le raisonnement que suit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, et qui explique, je vous ai posé la question, en quoi est-il possible que le Fils de Dieu nous justifie ? Il constate au départ qu'il y a une solidarité initiale dans le mal. Et cette solidarité dans le mal est en soi, je le reconnais, une injustice. Un a péché, ce péché s'est transmis, un a péché et a introduit la mort dans le monde, et ce péché originel atteint chaque être conçu et touche, et la mort touche tout le monde. Donc il y a une solidarité dans le mal qui fait qu'un enfant conçu dans le sein de sa mère est atteint du péché originel qu'il n'a évidemment pas commis et dont il n'est évidemment pas responsable, ce qui est profondément injuste. Par un seul, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché. Deuxième temps, mais cette injustice est contrebalancée par une solidarité nouvelle dans la grâce. Oui, c'est vrai, mais un autre, le nouvel Adam, est venu. Lui, c'est le juste, c'est le saint, c'est l'innocent par excellence. Et lorsque lui meurt alors qu'il ne devait pas mourir, il sauve tous les autres. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus par la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude ? L'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification. Et troisième temps, saint Paul dit « Il n'y a pas symétrie entre la solidarité du mal et la solidarité du bien. Ce que Jésus nous apporte n'est pas simplement le rétablissement des plateaux, l'équilibre des plateaux de la balance, où le péché d'Adam a fait tomber le plateau de l'humanité, donc on se trouve en bas. » Et le Fils de Dieu s'incarnant, venant dans l'autre plateau et donnant sa vie et mourant sur la croix, n'a pas remis les plateaux au même niveau. Il a permis que le plateau où se situe l'homme monte plus haut encore qu'il n'était avant la chute. Et donc il n'y a pas un parallèle, il n'y a pas une symétrie dans ces deux solidarités. Nous bénéficions beaucoup plus de la solidarité dans le bien, par la grâce de Dieu, que nous n'avons été atteints comme par les conséquences du péché et par notre propre péché. Et c'est signalé par le vocabulaire où saint Paul dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Il dit « Si ça s'est passé comme ça, combien plus ça se passe autrement ?» Et il parle de la profusion avec laquelle la grâce est donnée. Et donc, il y a cette justice nouvelle. Je poursuis toujours saint Paul. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Et il poursuit avec les Corinthiens ce raisonnement qui peut nous paraître très surprenant. Il dit « Lui qui est juste, Dieu l'a assimilé au péché, ce qui fait que quand il est mort, c'est le péché qui est mort. » C'est un peu, même si je ne connais pas bien ça, le bouc émissaire. Le Christ prend sur lui tous les péchés, et quand il meurt, le démon pense avoir vaincu le Christ. Et en fait, nous sommes en train de célébrer la défaite du démon, puisque en mourant, c'est le péché qui meurt et qui va être englouti. Voilà exactement ce qu'il dit aux Corinthiens. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et donc, est lié à cette justice, mais je ne développerai pas aujourd'hui, le sacrement de la réconciliation. Le saint, le juste n'est pas celui qui ne commet pas de péché, c'est celui qui va se confesser. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc nous comprenons que cette justice divine, elle ne s'acquiert pas à la force du poignet, elle se reçoit humblement, qu'à aucun moment nous pensions la mériter, nous est donnée gratuitement. Quatrièmement, le grand 4, heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Et je voudrais, il y a deux parties dans cette quatrième partie. La première, c'est un obstacle à cette réalisation, et je voudrais vous lire deux petits passages qui me paraissent intéressants. Le Mgr Lustiger décrit cet obstacle spirituel qui est en nous et qui nous empêche finalement de croire que cette justice, cette justification est possible. Beaucoup gardent la tristesse d'une déception spirituelle. À un moment de leur vie, ils ont dit à Dieu « Je t'aime Seigneur, je te donne tout et je veux être fidèle à ton amour. » Et puis ils ont fait l'expérience, parfois désespérante, de leur faiblesse, de leur péché, de leur incapacité à tenir même les décisions les plus simples. Ils se jugent indignes de l'appel à la sainteté qu'ils ont perçu et le rangent parmi les illusions perdues de la jeunesse ou d'une période de ferveur. Ils se résignent au sommeil spirituel. Parce qu'on ne parvient pas à rester fidèle dans la prière, on ne prie plus. Parce qu'on ne réussit pas à observer tel commandement de Dieu, on y renonce complètement. Parce qu'on n'arrive pas à se corriger de tels défauts, on cesse de vouloir en être délivré et de le demander à Dieu. Bref, parce qu'on ne correspond pas à l'image que l'on s'est faite de la perfection, on capitule devant l'appel à la sainteté. Or, cet appel n'a rien à voir avec l'ambition d'un champion sportif. Devenir saint, ce n'est pas pouvoir crier victoire en exultant « ça y est, j'ai atteint mon objectif de sainteté ». C'est bien plutôt demander à Dieu comme une grâce ce qu'il nous promet comme un rassasiement. Devenir saint, ce n'est pas être satisfait de soi et se déclarer soi-même parfait. Ce n'est pas davantage, à l'inverse, avoir honte de soi au point de ne plus oser implorer l'aide de Dieu. Mais c'est, alors même qu'on se sait pécheur, ne jamais se lasser de demander à Dieu d'être sanctifié, c'est-à-dire délivré de son péché. C'est avoir soif du pardon de Dieu et faim de sa miséricorde. Et le deuxième texte que je voudrais vous lire, ce serait un peu une réponse à ça. C'est une lettre qu'a reçue un jour le père Caffarel d'une religieuse qui est en Afrique. Et il lui écrit sur ses difficultés. Elle lui écrit sur ses difficultés. Et le père Caffarel répond, je vous en lis un extrait, mais je trouve que ce sont des textes qui peuvent être pour nous éclairants. « Ma sœur, j'ai été très heureux de recevoir de vos nouvelles, mais entre les lignes, il m'a semblé discerner une reviviscence de votre ancien mal, l'anxiété. Elle se déguise chez vous en remords, en crainte de ne pas être fidèle aux exigences de l'amour du Christ. Méfiez-vous de ce mal insidieux, il risque de miner votre âme comme ces taupes qui creusent des galeries souterraines dans les jardins. Je viens vous dire avec toute l'autorité du Père spirituel, ne quittez jamais du regard celui qui vous a choisi, appelé à son service, attaché à lui avec des liens d'humaine tendresse. Refusez-vous à toute introspection, et si vous voulez vous connaître, découvrez-vous dans le regard même que le Christ porte sur vous. Entendez-le vous dire, comme autrefois à son apôtre Pierre, « Va au large, je suis venu t'appeler à la liberté des enfants de Dieu », rappelle-toi que tu as reçu un esprit de fils adoptif et non un esprit d'esclave. Ne retombe pas sous le joug de la loi. Ta seule loi, c'est l'amour. Ne cède plus à ce vieux démon qui t'incitait à te regarder et à te condamner. Se regarder, c'est se détruire. C'est surtout du temps perdu pour aimer. Je ne t'invite pas à nier tes défaillances, mais dès que tu les constates, tourne ton regard vers moi et ton cœur retrouvera sa pureté. Quand tu surprendras en toi des pensées de motivation, des pensées, des motivations, des sentiments ambigus ou médiocres, désavoue-les aussitôt et ils seront rendus inoffensifs. Seul le mal non reconnu et non désavoué est un poison pour le cœur. Repousse instantanément la tentation insidieuse et génératrice d'angoisse. Si vraiment j'aimais mon Dieu, je ne commettrais pas toutes ces fautes. Ce n'est pas ton cœur qui est défaillant, mais ta nature pas encore totalement rectifiée et spiritualisée. Allons, que ressurgisse en toi la joie d'être aimé, que la pensée de notre amour fasse chanter ton cœur. Que votre cœur se dilate, gardez-vous de ce qui nous menace tous avec l'âge, l'étroitesse, la pusillanimité, la nonchalance, le rabougrissement du cœur. Demandez au Christ, dans chacune de vos communions, de faire craquer votre cœur, de le dilater aux dimensions du sien. Épousez ses intérêts. Les vôtres, c'est son affaire. Que son règne, son honneur, sa gloire soient votre passion. Alors il vous paraîtra dérisoire de vous laisser accaparer par la pensée de vos fautes. Ma sœur, je vous le répète, il vous faut vous perdre de vue. Oui, mais c'est souvent salutaire, hein. Alors, quel est ce rassasiement qui nous est promis? Ça, c'est le deuxième mot de la quatrième partie. Petit a, c'est le Christ lui-même. Ultimement, pourquoi cette béatitude nous invite-t-elle à être affamés et assoiffés? Parce que la réponse ultime, elle est évidemment dans le Christ, qui dit par exemple à la Samaritaine, qui se présente à la Samaritaine comme étant l'eau vive, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, elle deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle, et il suscite une faim, parce qu'il est lui-même le pain de vie, et il dit dans son discours à Capharnaüm, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Autrement dit, il nous faut être affamés et assoiffés, infiniment plus que nous ne le sommes, parce qu'il y a la possibilité d'un rassasiement qui est infini, qui est le Christ lui-même, qui vient étancher notre soif et rassasier notre faim par l'eau du baptême et par l'eau donc, qui est le symbole de l'esprit et par l'Eucharistie. Et il y a un même mouvement où le Christ est justement à la fois nourriture et breuvage qui est actuel et qui est aussi au futur, puisque cette béatitude est au futur, c'est l'Eucharistie. Alors, cette béatitude, elle est au futur, parce qu'ultimement, il n'y a que au ciel que nous serons pleinement rassasiés. Mais il y a une part qui est déjà réalisée, et il y a donc déjà une part du bonheur que nous pouvons déjà goûter, parce qu'elle est déjà en cours de réalisation. Et pourquoi sommes-nous insatisfaits tant que nous sommes sur terre? Parce qu'il y a ce mouvement que l'homme n'est pas affamé parce que son estomac est vide, mais parce que au fur et à mesure que le Christ le remplit, notre estomac se dilate. Et donc il n'est jamais comblé, pas parce qu'il manque, mais parce qu'il y a la possibilité d'accueillir toujours plus. Et ça, c'est vrai, tant que nous sommes sur terre, nous sommes sur terre pour augmenter notre capacité à recevoir. C'est en ce sens-là que le curé d'Ars disait, et je ne le savais pas si doué en économie, il disait, d'une certaine façon, ceux qui sont sur terre sont plus heureux que ceux qui sont déjà au ciel. Pourquoi? Parce que celui qui est au ciel vit de ses rentes, tandis que celui qui est au ciel peut encore augmenter son capital. Je trouve ça fabuleux. Donc nous sommes sur terre pour augmenter notre capital, pour avoir faim et soif, sans aucun risque de manquer, puisque celui qui vient nous combler, c'est le Christ lui-même. Alors, je termine en disant cette vie éternelle. Deuxième chose qui nous rassasie, quel est le rassasiement? C'est la vie éternelle. Et se repose la question qu'on a déjà posé une fois, mais est-ce que vous n'êtes pas des gens intéressés parce que vous faites tout ultimement pour la vie éternelle? Et je terminerai en disant, je pense que la réponse dépend de notre capacité à nous recevoir comme enfants de Dieu. Et je voudrais revenir un instant à la parabole du fils prodigue. Le père a donc deux fils. Le premier, c'est très clair, dit « Donne-moi ma part d'héritage, donc tu es mort pour moi, tu ne comptes plus pour moi, je ne veux plus être ton fils. » Donc le fils est mort à ce moment-là. et il quitte, ça c'est la mort avec son père, il quitte la maison en partant dans un pays lointain, et ça c'est que la conséquence, le fait qu'il, dans ce pays lointain, il fasse, vive dans l'inconduite, n'est qu'un enfoncement plus profond dans la mort, mais il est déjà mort. La chose semble plus simple pour le fils aîné. Le fils aîné, il n'a jamais quitté la maison, il ne s'est jamais rebellé, il est toujours présent, sauf qu'il n'a jamais été fils. Il a plus vécu en serviteur qu'en fils. Voici tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé aucun de tes ordres. Et lui, il a l'apparence d'être un fils parce qu'il est resté dans la maison, qu'il n'a jamais rebellé, jamais, tout est resté intérieur. Il était incapable d'entendre cette phrase du père « Mais tout ce qui est à moi est à toi, donc tu n'es jamais rentré dans mon intimité pour partager ma vie. Donc j'avais aussi à mes côtés un fils qui était mort. » Et le fils cadet rentre en lui-même, il retourne vers son père, vers la maison, avec des intentions qui ne sont pas nobles. Il veut être traité comme un serviteur, mais au moins le serviteur, là-bas, il a de quoi manger. Et plus il avance de la maison, plus il prend conscience de la présence de son père, plus lorsque son père arrive, qu'il le voit venir de loin, qu'il se précipite et qu'il le prend dans ses bras, plus les intentions du fils cadet se réajustent par rapport au père. Et si maintenant il rentre à la maison, ça n'est plus d'abord pour avoir à manger, c'est pour retrouver son père. Alors il va lui dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, traite-moi comme un serviteur, mais là, il est reçu comme un fils et il accepte maintenant de se recevoir comme un fils. Et il n'est pas question d'une récompense, il n'est pas question d'un salaire. Les serviteurs et les mercenaires ont un salaire. Le fils, ce n'est pas une récompense, il partage normalement la vie de la maison, la vie de la famille, qui est prévue initialement pour les enfants. Et donc, il n'y a plus une question d'intérêt, où on travaillerait pour un intérêt, il y a la question d'être ou de devenir ce qu'on doit être, de devenir ce que l'on est, donc d'être toujours plus les fils ou les filles bien-aimés du Père. Voilà, je vous remercie.
Puissant.
Oui, je suis épuisé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Off, oui, c'est ça, je pense qu'il n'y en a plus. Madame. Oui, je peux. Je vais vous dire si je la retrouve. 2 Corinthiens 5, 19, 21. La prière, là ? Dieu est injuste. Oui. Mais je ne sais pas de qui c'est. Non, non. Ben oui. Je le fais anonyme ? Non, non, je vous le passe, vous le photocopiez, vous me le rapportez. Vous êtes d'accord ? Ben moi aussi. Sinon, je suis perdu parce que je ne sais plus à qui je dois donner un papier, une enveloppe, l'accueil traîne d'enveloppes que les gens ne sont jamais venus chercher. Donc c'est plus, je vous donne le papier, vous le faites, et puis moi j'oublie que vous l'avez, puis un jour j'ai une bonne surprise, c'est Noël, et je retrouve une feuille. Je ne sais plus où la mettre, mais ça ne fait rien. Oui, madame. Glissez-moi une enveloppe sous la porte, c'est parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, madame.
Je suis tout intéressée par ce que vous avez dit sur le jeûne.
Oui, mais j'écoute.
Et alors, je ne voulais pas vous dire ça.
Mais je vous le me.
Alors, si j'ai bien compris, il y a différentes natures de jeûne. Il y aurait un jeûne qu'on ferait dans le désir de peut-être de mieux prier pour s'unir à Dieu, un jeûne qui serait pénitentiel, peut-être pour se rappeler son péché et de le recommencer, un jeûne de solidarité, est-ce que j'ai bien compris ?
Oui. Je pense que oui. Il y a tous ces sens-là au jeûne.
Un jeûne eucharistique, on pourrait très bien, même si c'est plus dans les obligations, s'imposer un jeûne eucharistique, même un peu plus grand que celui de minuit, qui ne convient pas
plus grand. Non, vous voulez dire qu'une heure.
Il y a une heure, autrefois c'était juste.
Oui, mais déjà, si c'est pas. Je vous assure que le prêtre qui pouvait pas manger, prendre son petit déjeuner, qui allait en vélo sur la route pour dire la messe, lui, il est content qu'on ait ramené à une heure. Bien sûr, ça fait partie. Je lutte pour que les, vous voyez, pour que mes passions se, oui, oui.
On peut se punir soi-même.
Non, mais voilà, si vous le faites comme une punition, je pense que c'est pas la bonne chose. Vous le faites comme un moyen dont vous avez compris. Vous le faites avec joie, comme un moyen. Ça va vous coûter, mais en fait, vous êtes déjà dans la joie de la perspective de ce que ça va vous rapporter. Il n'y en a pas, madame. Certainement. Là, ils ne sont pas morts. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'ils sont morts. Madame, on ne parle jamais de l'eau parce que je me suis. Il n'en est pas question dans l'évangile. Je ne sais pas.
Parce qu'en fait, on ne peut pas faire un effort sur l'eau. Autant on peut arrêter de manger très facilement pendant une semaine, autant on ne peut pas arrêter de boire. Donc, ça n'est pas quelque chose de cohérent.
Peut-être qu'ils sont eux habitués, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'ils sont habitués à avoir une gourde ou qu'il y avait un robinet, un puits. Oui, alors je n'ai pas, très matériellement, je n'ai pas la réponse, madame. Vous avez une question? Oui, quand est-ce qu'on ferme? Eh bien, on a maintenant. Merci beaucoup. Donc, la prochaine fois, c'est... sur la miséricorde.